Mise au point, bonsoir à tous. Défense de toucher ou la jouissance du dit avec Olivier Flournoy. Olivier Flournoy, vous êtes médecin et psychanalyste à Genève, vous êtes membre de la Société Suisse de Psychanalyse et vous publiez aux éditions Kahneman-Lévy, donc un livre qui s'intitule « Défense de toucher ou la jouissance du dit ». Tout un programme, évidemment, lorsqu'on pense à la situation analytique. Peut-être on pourrait déjà commenter ce titre, pourquoi « Défense de toucher » et pourquoi « La jouissance du dit ».
Eh bien, quand j'écrivais ce livre, qui est en somme une réflexion à propos de mon travail clinique essentiellement avec mes patients, je m'intéressais en même temps à l'histoire du Moyen-Âge et j'ai vu qu'à cette époque-là, l'injonction défense de toucher avait une importance absolument considérable afin d'assujettir le peuple à l'Église, avec évidemment comme menace les flammes éternelles si on touchait. Alors on voit tout à fait le sens que ça avait de toucher, c'était tout un plaisir qui devait être interdit pour rendre les gens esclaves de l'Église. Or, la situation analytique implique le défense de toucher, puisque d'une part, nous disons à nos patients de s'étendre devant nous ne les touchons plus jamais, eux ne nous touchent jamais, et je m'étais demandé s'il y avait un danger d'assujettissement. Or, si on pense uniquement à la théorie psychanalytique, on pourrait imaginer ce danger dans la mesure où l'analyste impose ses idées au patient au fur et à mesure que l'analysé lui communique les siennes. Mais je crois que ce n'est pas du tout ce qui se passe et que tout le discours qui se passe entre analyste et analysant a cet intérêt d'être touchant, justement. Et il faut qu'il soit touchant, et il faut qu'il soit touchant de part et d'autre. Je ne conçois pas un analyste qui ne soit pas touché par ce que dit son patient.
Même lorsqu'il dit « il pleut ».
Même lorsqu'il dit « il pleut », justement. Il est touché, il ne sait pas de quoi il s'agit, il se demande ce que ça signifie. Et même, ça peut l'inquiéter d'avoir quelqu'un qui vient dire une banalité pareille, qui s'offre, disons... pas seulement le luxe, mais l'expérience d'une psychanalyse parce qu'il souffre et qui vient vous dire il pleut. C'est quelque chose de tout à fait stupéfiant. Et je pense que pour retrouver ce côté touchant et ce côté jouissif qui avait été séquestré par l'Église avec le défense du toucher au Moyen-Âge, alors il s'agit de retrouver le touchant au niveau de ce qui est dit, de la parole. Et c'est pour ça que j'ai ajouté « sous défense de toucher » ou « la jouissance du dit » qui est vraiment le but tangible de la psychanalyse et non pas un but qui viendrait après coup, après la psychanalyse, comme le but de l'Église qui serait après coup de gagner le paradis, ce qui est tout de même assez discutable.
Alors la jouissance du dit, est-ce qu'elle est aussi du côté du psychanalyste et de quelle manière ?
Alors, ce qui est de curieux dans la jouissance du dit, c'est qu'elle est, quand on l'éprouve, je ne peux parler évidemment que de mon expérience, c'est qu'elle est parfaitement partagée. C'est qu'il y a des moments où ces gens qui viennent pour des souffrances importantes, pour des symptômes qui leur rendent la vie impossible, qui finalement viennent s'expliquer, qui viennent nous dire qu'ils sont des incompris, il y a des moments où soudain, on a l'impression de se comprendre et où tout se... On pourrait dire que tout se dissout, que tout devient...
Orgastique ?
Je ne dirais pas orgastique, je dirais... Parce que orgastique, je dirais que c'est trop concret, c'est trop lié à, par exemple, les scènes d'orgasme au cinéma, ça n'a rien à voir avec ça. Je crois que c'est vraiment des moments de bonheur élégiaque qui sont extraordinaires, où on a l'impression qu'il n'y a plus de distance entre cette personne qui est là avec nous, et où on s'est parfaitement compris. Et ce sont... Alors, ça rapprocherait de l'orgasme sur le fait que c'est pas... que ça ne dure pas, que immédiatement c'est remis en cause. Mais je dirais que ça éloigne de l'orgasme parce que on a la conviction intime que c'est partagé. Alors que l'orgasme, si vous vous rappelez des déclarations de Lacan, il y a une espèce de chacun pour soi qui est très caractéristique de cette activité-là.
Comment peut se faire justement ces moments dont vous parlez? Parce que dans votre livre, il est beaucoup question d'intersubjectivité. Qu'est-ce que ce serait et comment on peut la comprendre?
Bien, l'intersubjectivité, le problème, c'est que c'est très difficile de la théoriser. Parce que dès qu'on la théorise, on reprend une distance et on reparle d'une chose qui est mise à distance. On ne peut plus parler de soi et de ce qui se passe entre deux personnes. Et les moments les plus étonnants, je pense, au point de vue intersubjectif, sont des moments cliniques, spontanés, inattendus, qu'on n'a pas recherchés, mais qui découlent de toute la méthode psychanalytique, et qui sont tout à fait étonnants après coup. Alors, il y en a un que j'ai donné à la fin du livre, qui, j'espère, intéressera les lecteurs, c'est quand, justement, ce patient me raconte ce rêve où il a bu de l'eau avec avidité et où ensuite il me raconte le rêve, mais il dit qu'en fait il n'a pas du tout eu soif après, ce qui contredit complètement une certaine théorie de la cure qui dit que c'est parce qu'on a eu soif qu'on a satisfait cette soif en buvant. Et à ce moment-là, je lui dis: on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et on ne sait pas si ça s'adresse à lui ou à moi, mais à y réfléchir, ça s'adresse exactement aux deux. C'est-à-dire qu'effectivement, lui n'a pas bu, et que moi, je n'ai pas marché dans l'histoire au moment même. Quoique j'y ai marché, puisque je l'ai cru, et que j'ai accepté ce qu'il me disait, mais fort de ma théorie que je conteste, j'ai dit: on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, alors que j'ai tout à fait bu à ce qu'il me racontait.
À vous entendre, il semblerait qu'il y ait du tiers dans cette relation.
Oui, sûrement. Il y a toujours du tiers, sauf justement dans ces moments de jouissance du dit, où le tiers qui est finalement le discours. Le discours, c'est un tiers qui fait
Oui, avec tous les référents du discours.
Avec tous les référents du discours, absolument. C'est ce qui nous sépare ou nous lie l'un à l'autre. Et à ce moment-là, il y a des moments tout à fait fabuleux dans ce métier où on a l'impression que, au-delà du discours, moi j'aime bien le terme comprendre. On s'est totalement compris. On n'est plus des incompris. Alors théoriquement, si on n'est plus des incompris, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, parce que vraiment, si on vient faire une psychanalyse, fondamentalement, c'est parce qu'on l'est, on est incompris.
Je crois que d'autres aspects de votre livre aussi concernent qu'est-ce qu'il en est de l'éthique de la psychanalyse. Je veux dire, le fait, on dit toujours, la psychanalyse est-elle une science? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Enfin, est-ce que, par exemple, le fait de poser le problème de la psychanalyse en tant que science, c'est se poser le problème de l'éthique de la psychanalyse? Puisque on parlait de cette relation à deux, où finalement le tiers n'est que du discours et personne ne peut dire si quelque chose de correct se passe. Enfin, personne d'autre que les deux partenaires.
Mais c'est sûrement un des très gros problèmes de la psychanalyse. Je pense que les scientifiques, enfin dans un certain sens, les scientifiques seront toujours à même de contester la psychanalyse, puisqu'il ne peut pas y avoir de témoignage de ce qu'on a fait. Il est exclu qu'il y ait un tiers, justement. Ça enlèverait toute la substance de l'échange qui se passe. Mais le psychanalyste, enfin je pense que comme dans tous les métiers du monde, se doit d'avoir une éthique, et que cette éthique est d'autant plus difficile et d'autant plus rigoureuse ou exigeante, disons, pour le psychanalyste, qu'il n'y a personne pour le surveiller, et lui-même, qu'il est là devant quelqu'un qui apparemment ne le connaît pas et qui est d'accord de venir chez lui pendant des mois et des années et lui raconter toutes ses histoires, qui lui fait une confiance littéralement incroyable au début. Et ça, c'est très frappant quand on y pense. Encore faut-il y penser, que vraiment, on se demande de quel droit on a droit à toutes ces confidences et à toute cette confiance, alors que cette personne n'a pris aucune
Avec l'idée, comme disait Freud, c'est que cette personne aille mieux d'une certaine manière. Ça aussi, c'est un autre problème. Enfin, c'est à quoi sert la cure? Vous citez un moment Freud qui dit c'est dépasser aussi sa névrose, ses difficultés, ses limites, etc. Mais comment, si vous voulez, peut-on connaître quelque chose justement de l'éthique du psychanalyste?
J'imagine à travers ce que le psychanalyste dit en dehors, sa réputation, ce qu'il écrit, ses articles, ses livres. Peut-être que les gens jugeront de mon éthique à propos de ce livre ou des autres que j'ai écrits.
Mais par rapport, vous démarquez aussi le psychanalyste du psychologue, par exemple.
Oui, tout à fait. Je pense que justement, le problème du psychologue, c'est que c'est un travail qui se fait sur une personne ou sur un groupe de personnes à partir du psychologue qui est en dehors du coup. Or, le psychanalyste ne peut pas être en dehors du coup, il est totalement impliqué. Et même dans les sciences contemporaines où on dit que le chercheur ne peut pas éviter son équation personnelle, je crois que c'est davantage en psychanalyse parce que c'est pas seulement notre équation personnelle de chercheur qui est en cause, c'est nos sentiments, c'est notre folie. On est obligé de pouvoir dire des choses apparemment folles ou qui à des gens qui nous disent des choses aussi apparemment incompréhensibles pour essayer finalement de réussir à s'entendre. Et je reviens là-dessus, je pense que l'éthique du psychanalyste, moi ça me rappelle quelque chose de kantien. Il n'y a pas de doute, parce que c'est inconcevable, je dirais, d'avoir une entente entre vous et moi sur le dos de quelqu'un qui n'est pas là. Ça ne marche pas. On le sent, ou le psychanalyste le sent et le sait. Et l'idée, qui est évidemment asymptotique, c'est qu'il n'y ait plus personne qui soit opposé ou qui soit là comme tiers qui viennent nous surveiller ou nous critiquer ou n'être pas d'accord. On a l'impression que tous ces problèmes-là se dissolvent justement au moment de ce que j'ai appelé la
jouissance du dit.
Oui.
Je vous remercie, Olivier Flournoy. Donc, votre livre s'intitule « Défense de toucher ou la jouissance du dit ». Il est publié chez Kalman Lévy. Bonsoir à tous.
À demain, Eliane Contini.